Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, ça fait toujours plaisir de revenir parmi vous dans cette église où j'ai grandi. Je pense que certains l'ignorent parce que je vois qu'il y a du renouveau ici aussi. Donc, comme ça a été dit, je vais parler sur un passage de l'Ecclésiaste. C'est déjà la troisième fois que j'aborde un passage de l'Ecclésiaste dans cette église. Alors vous en souvenez probablement pas, mais quand même par acquis de conscience, j'évite de reprendre les mêmes passages au même endroit. Du coup, j'ai pris un passage qui est peut-être un peu plus difficile à interpréter, un peu plus difficile dans les thèmes qu'il aborde, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui nous est utile et que c'est quelque chose qui est assez représentatif de l'Ecclésiaste. Parce que l'Ecclésiaste, c'est souvent un livre qui nous bouscule, qui nous secoue, qui peut-être nous dérange. Et puis, parfois avec ce genre de texte, on peut être tenté de prendre le texte et puis après d'essayer de l'excuser, de dire ce qu'il dit, d'essayer de vite passer à autre chose, de vite amortir un petit peu le contenu du texte. Et puis je vais essayer de ne pas faire ça ce matin, mais de nous aider à être interpellés par ce texte, donc qui sera donc Ecclésiaste 7, versets 1 à 14. Et puis, une autre chose qui est pas évidente avec ce passage, c'est qu'il y a plusieurs phrases, plusieurs affirmations qui semblent peut-être un petit peu déconnectées, où il n'y a pas toujours une connexion logique directe, où on ne voit pas forcément la grande unité de thème du passage. Mais ce que j'ai trouvé comme grand thème commun de ce passage, c'est l'idée que ce qui nous est le plus utile n'est pas ce qui nous est le plus agréable. C'est l'idée que c'est des choses difficiles qui parfois nous font avancer. Et là-dedans, j'ai trouvé trois grands sous-thèmes, trois grands angles. Le premier, ça sera l'idée de regarder la mort en face. Le deuxième, c'est la notion de la réprimande par rapport à la sagesse. Et le troisième, ça sera la succession du bien et du mal, ou plutôt la succession du bonheur et du malheur dans nos vies, et puis comment gérer cela. Sans plus attendre, je lis donc ce texte, Ecclésiaste 7, versets 1 à 14. « Mieux vaut un nom que l'huile parfumée, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Mieux vaut aller à la maison de deuil que d'aller à la maison de banquet. C'est dans celle-là que se trouve la fin de tout être humain, et le vivant doit y réfléchir. Mieux vaut la contrariété que le rire, car avec un visage triste, le cœur devient meilleur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, le cœur des gens stupides dans la maison de joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un sage qu'être homme à écouter la chanson des gens stupides. Comme les épines qui crépitent sous la marmite, tel est le rire des gens stupides. C'est là encore une futilité. L'oppression fait du sage un fou, les cadeaux font perdre la raison. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être contrarié dans ton esprit, car c'est sur le sein des gens stupides que repose la contrariété. Ne dis pas « Pourquoi les jours du passé était-il meilleur que ceux-ci? Car ce n'est pas la sagesse qui te ferait poser cette question. La sagesse vaut un patrimoine. Elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse assure la vie des sages. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, regarde. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. Comme je l'ai dit, le premier grand thème de ce passage, c'est celui de la mort. C'est un appel à regarder la mort en face. La fin de tout être vivant, la fin de toute vie humaine, eh bien, c'est la mort terrestre. Et l'Ecclésiaste nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison où on mène le deuil que dans une maison où on fait un festin. L'homme doit réfléchir à sa vie face à la mort, être conscient de la fin de son existence. Et passer son temps dans les endroits où on fait la fête pour oublier cette circonstance, pour oublier la mort et les difficultés, eh bien c'est une attitude de folie. Si on fait la fête pour ne pas regarder notre vie telle qu'elle est, eh bien on est parmi ceux que l'Ecclésiaste appelle les gens stupides. Alors je commence avec ce thème de la mort, parce que c'est le premier qui apparaît en gros dans ce passage, mais aussi peut-être parce que c'est celui qui nous choque le plus. J'ai assez nettement l'impression que dans notre société aujourd'hui, on évite de parler de la mort et de penser à la mort. On évite d'y faire face, on en fait un sujet un peu tabou. Et dans un sens, c'est naturel, parce que la mort est de toute façon quelque chose en soi de négatif et de douloureux. La mort n'est pas quelque chose qu'on apprécie en soi. Et le Nouveau Testament nous dit aussi que la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. Donc, la mort n'est pas une belle chose. Notre réaction instinctive face à la mort, c'est une réaction de refus. C'est une réaction de se dire que ça ne devrait pas exister, presque que ça n'est pas possible que ça existe. Et en soi, c'est normal, parce qu'on n'a pas été créé pour la mort. On a été créé pour la vie, et c'est par le choix de l'homme de se détourner de Dieu qu'on est dans cette situation où la mort nous attend. Mais en plus de cette réaction naturelle face à la mort, je crois que le monde et la société occidentale dans lequel on vit est allé plus loin que beaucoup d'autres dans le refus de la mort. Parce qu'on mise tout sur l'existence présente, parce qu'on pense que la seule chose qui existe, c'est ce qu'on peut voir, toucher, expérimenter aujourd'hui. Et que tout ce qui concernerait autre chose que ce monde, tout ce qui concernerait une vie après la mort, notre société le considère comme une fiction, comme un opium pour les faibles, comme une manière de fuir ce monde. On se concentre uniquement sur cette vie ici, et à cause de ça, on essaye de vivre sans penser à la mort. On essaye de l'oublier, de la mettre au placard. On cache la mort, on la tient discrète, on évite de trop en parler, on ne passe plus comme nos arrière-arrière-grands-parents, peut-être, une nuit à veiller le corps de la personne qui est morte. On essaye de protéger les enfants de la vision de la mort, et ainsi de suite. Et puis, d'un autre côté, on essaye aussi de la maîtriser. On veut prolonger la vie coûte que coûte. On met tous les moyens possibles pour se battre contre la mort. Et on espère quelque part, peut-être, que les progrès techniques vont nous apporter l'immortalité, qu'on sera délivré de la mort sur cette terre par le progrès de notre technologie. Et puis, à l'inverse, une fois qu'on se rend compte qu'on ne peut pas entièrement repousser la mort, on peut aussi être tenté de la domestiquer en choisissant la mort, en faisant appel au suicide assisté, à ce genre de procédure pour dire ben, nous sommes maîtres de notre mort, c'est à nous de choisir quand ça se passe, comment et avec qui. Mais quelque part, ben c'est encore une manière de vouloir s'en rendre maître, de penser qu'on n'y est pas soumis, mais qu'on l'a sous contrôle. Mais malgré tout ça, eh bien la mort s'invite à l'improviste. Il y a des événements dans les médias qui la ramènent sur le devant de la scène. La tuerie à Charlie Hebdo, d'un jour à l'autre, au milieu d'une société occidentale bien policée, bien contrôlée, et tout à coup remet la mort au premier plan. Et ce qui se passe avec l'État islamiste au Moyen-Orient nous remet aussi dans notre actualité des tueries, une grande violence, beaucoup de gens qui sont concernés par une mort violente et non désirée. Et puis plus près de nous, même quand on est jeune, on peut perdre des amis dans des accidents de la route ou dans des suicides et des dépressions ou encore dans des cancers qui frappent bien trop jeunes. Dans les deux dernières années, il y a deux personnes que je connaissais ou dont je connaissais les proches qui sont mortes d'un cancer autour de 25 ans. Et un autre ami, enfin, une autre connaissance que j'avais rencontrée deux ou trois fois, mais dont je connais beaucoup de gens qui étaient très proches, dont son frère jumeau, qui a fait une dépression et est parti se perdre dans la forêt et y a été retrouvé mort. Ça veut dire que on fait tout ce qu'on veut, mais la mort s'invite là où on la veut pas. Et dans un sens, ce à quoi l'Ecclésiaste nous invite, c'est à en être conscient et c'est à réfléchir à cette mort, à réfléchir à la condition de l'homme sur cette terre et réfléchir au fait que finalement, nous aussi on va mourir, tôt ou tard, quoi qu'on fasse. Et l'Ecclésiaste nous appelle finalement à vivre en tenant compte de cela. Nous ne vivrons pas toujours, et un jour notre heure sonnera. Et pour l'Ecclésiaste, la voie des insensés, la voie des gens stupides, c'est de faire la fête pour oublier. Et la voie de la sagesse, c'est d'y réfléchir, c'est d'en prendre conscience. Et pour moi, une des questions que j'ai essayé de me poser depuis longtemps, une des questions qui me semble bonne à se poser face à cette mort qui nous attend, c'est quelle vie je veux avoir vécu, de quelle vie je serai content quand le jour de ma mort arrivera. Je crois qu'une des manières d'être prêt à la mort, c'est de vivre d'une manière où on pourra être content de notre existence quand on la regardera en arrière au jour dernier. Et je crois aussi que pour être prêt, lorsque notre mort s'approchera, eh ben, il faut vivre aujourd'hui une vie qui est belle et digne, une vie où on met en application les valeurs de Dieu, une vie où on fait de Dieu notre priorité, pour que quand ça sera le moment de partir, eh ben, on n'ait pas nos priorités sur cette terre, mais nos priorités dans ce qui demeure auprès de Dieu. Et puis, par rapport à ce sujet de la mort, j'aimerais encore citer un passage de la première lettre aux Thessaloniciens. Donc, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14. « Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. De même, nous croyons aussi que Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. » Et une des choses qui peut nous aider à regarder cette réalité de la mort en face, en tant que chrétien, c'est de savoir justement que la mort n'est pas la fin de tout. C'est de croire en Jésus et de croire que nous revivrons avec lui. C'est que Jésus a affronté la mort et l'a vaincu. Ça ne nous dispense pas de la mort physique, mais ça nous donne une espérance qui va au-delà et qui nous permet de faire face avec assurance à ce jour-là. Et puis, Jésus nous appelle aussi à le suivre, à être fidèle jusqu'à la mort, à porter notre croix pour nous mettre à sa suite. Et d'une certaine manière, je crois qu'on n'est pas prêt à le faire si on n'est pas prêt à faire face à la mort pour lui et avec lui. Et quelque part, si on ne suit Jésus que pour cette vie, pour avoir une vie agréable ici, sans être prêt à mourir pour lui, eh ben, on ne le suit pas de la manière dont lui nous appelle à le suivre dans ce qu'il enseigne dans le Nouveau Testament. Donc, ce thème de faire face à la mort, l'Ecclésiaste l'a mis en contraste avec le fait de faire la fête d'être dans les maisons de festin. Et il y a donc une manière de se réjouir, une manière de faire la fête à laquelle l'Ecclésiaste s'oppose. C'est pas que l'Ecclésiaste s'oppose à ce qu'on profite de la vie. Au contraire, il y a bien d'autres passages où il encourage à profiter de cette existence. Mais il y a une manière de se réjouir qui est un déni de réalité, qui est une manière d'oublier là où on est et dans quel monde on vit. On fait la fête pour oublier qu'il n'y a rien à fêter. On se réjouit comme s'il n'y avait rien d'autre que la fête qu'on est en train de faire. Et l'Ecclésiaste n'est pas favorable à cette forme d'oubli qu'on cherche dans la fête. Et je crois que cette forme de fête où on cherche à oublier, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup autour de nous. Je crois que je l'ai beaucoup vu en tant qu'étudiant, de voir des amis qui font la fête en général en buvant beaucoup d'alcool et en mettant de la musique très forte. Je m'excuse, je tombe dans les caricatures faciles, mais où quelque part, j'avais vraiment l'impression que on faisait une grande fête, on s'agitait beaucoup, mais c'était plus pour oublier tout le reste que parce qu'il y avait vraiment une joie dans ces moments-là. Et puis alors, cette mauvaise forme de réjouissance, l'Ecclésiaste la met aussi en contraste avec des reproches d'un homme sage. Je relis les versets 5 et 6. Mieux vaut écouter les reproches d'un sage qu'être homme à écouter la chanson des gens stupides. Comme les épines qui crépitent sous la marmite, t'aider le rire des gens stupides. C'est encore là une futilité. Alors, ça mérite peut-être une petite explication, en particulier sur le verset 6, comme les épines qui crépitent sous la marmite, tel est le rire des gens stupides. C'est peut-être pas tout à fait évident ce que ça veut dire, et puis pourquoi l'Ecclésiaste l'exprime comme ça. Alors, une première chose à noter, c'est qu'il y a en fait un jeu de mots dans le texte hébreu. Donc juste avant, il parle de la chanson des gens stupides. La chanson en hébreu se dit « shir », les épines se dit « sirim », qui est le pluriel de « sir », et la marmite se dit aussi « sir ». Donc il y a une assonance, il y a un lien entre la chanson « shir », les épines « sir » et la marmite « sir » aussi. On pourrait éventuellement en français essayer de rendre ça en parlant de chansons, de chardons et de chaudrons, mais ça marche quand même mieux en hébreu. Alors, quant à la signification de ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de flambeaux ou d'autres scouts parmi nous ce matin, mais ceux qui ont l'habitude de faire du feu savent que brûler des épines ou des branches de sapin, ça ne produit pas beaucoup de chaleur durable et efficace pour faire bouillir la marmite. Ça fait beaucoup de bruit, ça peut être assez amusant, ça peut faire des grandes flammes pendant un petit moment, mais ce n'est pas très utile. Et l'Ecclésiaste dit cela de la chanson de l'insensé. La joie de ceux qui ne prennent pas en compte la réalité des choses, eh bien, finalement, elle ne sert à rien. Et quand il parle de la chanson de l'insensé, ça peut être simplement une chanson pour faire la fête, youpi tralala, la macarena et tout ça. Ou peut-être ça peut être une chanson de louange ou de flatterie que les gens nous adressent. C'est peut-être que c'est quand les gens chantent nos louanges, mais que c'est finalement un peu creux, et puis pour nous flatter. Et avoir des gens qui nous flattent et qui nourrissent notre ego, peut-être que ça nous fait nous sentir bien, mais ça ne nous fait pas avancer. Par contre, quand on reçoit des reproches de quelqu'un qui est sage, qui sait ce qu'il dit, et puis qui nous dit ce qui ne va pas, et bien là, ça nous permet de progresser. Ça nous permet d'aller de l'avant. Et on peut aussi se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que ce qu'on dit aux autres, ce qu'on leur transmet, ça les aide à avancer? Ou bien est-ce qu'on est juste en train de les brosser dans le sens du poil, de passer un coup de brosse à reluire pour qu'ils se sentent confortables? Et si on écoute l'Ecclésiaste, eh ben, il ne faut pas se contenter de dire aux gens ce qui va leur être agréable et les faire se sentir bien. Mais il faut aussi se demander comment est-ce qu'ils ont besoin de grandir et comment est-ce que je peux les aider à cela. Et je sais que parfois parfois on a un petit peu de la peine avec ça parce qu'on préfère être gentil et aimable que mettre le doigt sur des choses difficiles. Alors, bien entendu, je ne parle pas de tomber dans l'autre extrême ou dans l'autre problème qui est de toujours râler, de toujours dire des choses qui ne vont pas, sans jamais encourager, sans jamais relever le bien, sans prendre toutes les choses en compte. Mais il y a une place pour la réprimande et on a besoin d'apprendre à la vivre pour s'encourager les uns les autres à avancer. J'arrive maintenant à mon troisième grand point dans ce passage, qui est la succession du bonheur et du malheur, des choses agréables et désagréables. Première chose peut-être à relever, c'est que face aux moments qui sont plus difficiles, l'Ecclésiaste nous encourage à ne pas être trop facilement contrarié. Être toujours fâché de tout ce qui se passe, ce n'est pas un signe de sagesse. Il peut nous arriver beaucoup de désagréments, mais les prendre trop à cœur et trop être toujours occupé à râler, l'Ecclésiaste ne le regarde pas de manière favorable. Donc là, je redis des versets 9 et 10. Ne te presse pas d'être contrarié dans ton esprit, car c'est sur le sein des gens stupides que repose la contrariété. Ne dis pas pourquoi les jours passés étaient-ils meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te ferait poser cette question. Donc, ne nous pressons pas trop facilement d'être contrariés, d'être fâchés par les choses qui nous arrivent. Et puis, d'autre part, on peut aussi facilement se laisser aller à penser que dans le passé, tout était mieux, que les choses se sont drôlement dégradées. Et l'Ecclésiaste trouve qu'il n'y a pas de sagesse dans cette idée. Les jours du passé avaient du bon et du moins bon. Et les êtres humains ne sont globalement ni meilleurs ni pires. Nous sommes appelés à vivre aujourd'hui avec sagesse et pas à nous lamenter sur l'évolution du monde. Et quand on en est à se dire « Ah, c'était tellement mieux avant », eh bien, on peut s'arrêter et puis prendre un petit peu de recul et se dire « Est-ce que c'est vraiment le cas ?» Et puis, surtout, est-ce que ça nous aide à progresser, de regarder les jours du passé en disant que c'était tellement mieux ? Puis, l'Ecclésiaste montre aussi une conscience aiguisée du fait que le bien et le mal nous arrivent et nous arriveront. Il souligne que le bonheur et le malheur sont également probables pour nous. Et que comme ça, on ne sait pas ce qui va nous arriver et qu'on ne peut pas le prévoir. Je relis le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, regarde. Dieu a fait exactement l'un comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. Donc, ce livre nous invite aussi à faire bon usage des temps de bonheur comme des temps de malheur. Il nous encourage à profiter du bonheur dans les jours de bonheur. C'est une bonne chose. Il faut être reconnaissant et profiter de ce qui va bien quand les choses vont bien. Mais il dit que les jours de malheur sont une occasion pour nous faire réfléchir, pour regarder les choses, pour prendre du recul. C'est un peu ce que Michel nous disait dans son témoignage. Et je crois que l'Ecclésiaste a raison. Je crois que quand tout va bien, on peut assez facilement s'assoupir un peu, se sentir satisfait de notre existence et plus vraiment y réfléchir. De manière naturelle, quand tout va bien, on pense que finalement on est des gens assez bien, que le monde est un endroit bien où on se sent bien, qu'on est en ordre avec Dieu, qu'on n'a rien à apprendre. Et d'un côté, c'est regrettable que ça se passe comme ça, mais on a des fois besoin que les choses aillent mal pour se remettre en route, pour avancer, pour se remettre en cause, pour sortir de notre confort et puis réfléchir à vraiment comment on vit et comment on se comporte dans ce monde. Et l'Ecclésiaste disait aussi ça au verset 3, « Mieux vaut la contrariété que le rire, car avec un visage triste, le cœur devient meilleur. » C'est parfois quand on est triste à cause de notre circonstance que notre cœur devient meilleur, qu'on devient plus capable de compatir à ce que les autres vivent, plus capable de porter les difficultés des autres avec eux, plus humble par rapport à où on en est et à comment on vit. Et pour moi, ça a aussi été mon existence, ça a aussi été mon expérience que des moments plus difficiles m'ont fait plus avancer. Entre autres, au niveau de ma foi, je passe assez régulièrement par des moments de doute assez profonds, où je me demande si tout ce que j'ai cru, c'était une fiction, où je me demande si Dieu est vraiment présent ou pas, si Dieu existe vraiment, et si je peux faire confiance à la Bible. Et ces moments, pour moi, sont très difficiles, assez terrible, parce que c'est le principal fondement de mon existence qui est ébranlé dans ces moments-là. Et que... Ouais. Que... Bah, que je me trouve à me demander si tout ce qui donne du sens à ma vie est en fait du vent et de la fumée. Ces moments sont difficiles, mais c'est aussi dans ces moments-là que j'ai le plus avancé. Parce que dans ces moments de doute, eh ben, je me suis trouvé forcé de réfléchir, mais vraiment pourquoi j'y crois, quand est-ce que j'ai vu Dieu agir, comment est-ce qu'il agit, et ça m'a aussi forcé à changer mon regard sur le monde pour comprendre comment Dieu est là malgré toutes les choses qui me posent des questions. Et ces moments sont aussi les moments qui me font prendre conscience de mes limites et de ma faiblesse. C'est des moments qui m'ont fait évoluer dans ma compréhension de Dieu, qui m'ont fait aussi me rendre compte à quel point je dépends de lui. Et je sais que j'en ai pas fini, mais ce que j'espère, c'est d'être trouvé fidèle aussi dans ces moments, et puis d'apprendre ce que je dois apprendre dans ces moments-là. C'est un exemple qui correspond à mon expérience. D'autres gens passent par d'autres difficultés, d'autres ordres. Et il ne s'agit pas du tout de minimiser ces difficultés. Il y a des coups durs qui sont terribles et où forcément on en souffre et où c'est pas un où il y a rien à reprocher aux gens de souffrir quand c'est la calamité qui tombe sur eux. Mais je pense qu'on peut vivre avec cette conscience que oui, ça peut arriver, et puis déjà se préparer à se dire quand les choses vont mal, je vais être prêt à en tirer enseignement et à les vivre de la manière dont Dieu veut que je les vive, et pas à être jeté à terre par la surprise, et pas à faire des difficultés une excuse pour tout laisser tomber de ce que j'ai pensé devrait être juste jusque-là. Puis dans ce passage, il y a encore une idée qui peut nous choquer. C'est l'idée que Dieu a fait le jour du malheur de la même manière que le jour du bonheur. Ça peut nous sembler difficile à concilier avec l'idée de la bonté de Dieu. Alors, d'une part, toute la Bible nous assure que Dieu est souverain sur le bonheur comme sur le malheur, qu'il n'y a rien qui lui échappe. Et dans ce sens-là, ce passage de l'Ecclésiaste n'est qu'un rappel d'une grande vérité, c'est que on peut pas dire à partir du moment où les choses se passent mal, ah non, ça Dieu l'a pas voulu, parce que si on faisait ça, eh bien notre Dieu serait plus le Dieu tout-puissant, serait plus le Dieu qui tient toutes nos vies dans sa main, et finalement serait plus le Dieu qui peut nous aider dans tout ça. Mais par rapport à la question de sa bonté, on doit aussi parfois questionner qu'est-ce qu'on entend par bon. On peut avoir une certaine tendance à penser que bon, ça veut dire gentil, que ça veut dire celui qui nous donne que ce qui nous est agréable, que ce qui nous fait du bien dans notre ressenti. Mais Dieu est un Dieu bon dans un sens plus profond que ça, qui tient compte aussi de sa réaction, de son refus du mal, de sa justice face au mal, et qui tient compte aussi de cette réalité que des choses difficiles peuvent nous faire avancer. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question de comment Dieu utilise le malheur et de comment il se positionne par rapport à cela. Mais je vais juste lire un passage du Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 8. Vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tout fils qu'il accueille. C'est pour votre éducation que vous souffrez. C'est ton fils que Dieu vous traite. Quel est, en effet, le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes privé de la correction, dont tous ont leur part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. La bonté de Dieu prend en compte nos besoins et aussi notre besoin d'apprendre. Si on suit l'Ecclésiaste et la lettre aux Hébreux et le livre des Proverbes qui est cité ici par Hébreux, eh bien, il faut être prêt à tirer enseignement des temps de difficulté. Maintenant, il y a aussi un danger avec cette idée de correction. C'est l'idée de dire que tout ce qui arrive de mal est une punition pour un péché concret qu'on a fait. Et donc de chercher, quand quelqu'un va mal, qu'est-ce qu'il a fait pour le mériter. Et je crois que les malheurs et les souffrances qui frappent ce monde sont quelque part une conséquence et même une punition pour le péché en général, pour la situation de l'homme en rébellion face à Dieu, le fait que Dieu continue à laisser la souffrance et le malheur se produire dans ce monde, voire à quelque part le provoquer, c'est une conséquence du fait qu'on s'est détourné de lui, une conséquence du fait qu'on est séparé de lui et qu'on ne fonctionne plus comme on devrait fonctionner. Et que Dieu laisse cette souffrance continuer pour nous rappeler qu'on n'est pas en règle avec lui dans ce monde, dans la manière dont il fonctionne. Par contre, il n'y a pas un lien direct entre chaque souffrance et des péchés précis. Cette idée-là est une idée que la Bible, au final, refuse dans les paroles de Jésus, dans le livre de Job en particulier, dont c'est un des gros thèmes. Et puis, là, l'Ecclésiaste nous dit que l'être humain ne peut rien deviner de son avenir, que le bonheur et le malheur arrivent également. Et quelque part, s'il y avait un lien direct entre « je fais du bien, il m'arrive du bien, je fais du mal, il m'arrive du mal », eh bien, on pourrait commencer à essayer de deviner qu'est-ce qui va nous arriver en évaluant l'état de notre comportement. Mais l'Ecclésiaste refuse aussi ça. Le bonheur et le malheur vont nous arriver, mais ce n'est pas de manière mécanique, ça fait partie de notre existence et on ne peut pas le prévoir et le calculer. J'arrive maintenant au moment de conclure. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est un texte plutôt difficile. Donc, ce qui met en avant, c'est qu'on tire plus de profit de ce qui est dur que de ce qui est agréable pour nous. Et il nous invite à en prendre conscience et à le mettre en pratique. Ce n'est pas agréable de penser à notre mort, mais ce texte nous invite à prendre conscience de la présence de la mort et du fait qu'elle nous attend tous. Nous devons vivre nos vies de manière à être trouvés prêts pour notre dernière heure. Et pour nous chrétiens, eh bien, on peut faire cela avec espérance, parce que nous croyons en Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts, et que nous attendons la résurrection des morts. L'Ecclésiaste nous invite aussi à profiter des reproches qui nous sont faits, plutôt qu'à rechercher des louanges faciles ou des réjouissances creuses. Et on peut aussi se demander comment est-ce que nous, on peut aider les autres à progresser dans ce qu'on leur apporte, ce qu'on leur transmet, ce qu'on leur dit. Et puis finalement, nous sommes appelés à faire bon usage des temps de difficulté. On peut profiter des temps de bonheur sans mauvaise conscience. Mais lorsque le malheur frappe à notre porte, eh bien, il faut essayer autant que possible d'en faire une occasion pour réfléchir sur nos vies et notre monde. Et il nous faut chercher à mieux connaître Dieu et à nous appuyer d'autant plus sur lui quand viennent ces moments. Alors, je crois aussi que l'Ecclésiaste est un livre qui souvent soulève plus de questions que ce qu'il amène de réponses définitives. Et d'une manière, j'ai aussi suivi cet aspect-là. Je ne pense pas avoir amené toutes les conclusions auxquelles on peut arriver sur tous les thèmes qui sont abordés. Mais j'espère que, avec l'aide de Dieu, ce texte nous aidera à poursuivre ces réflexions, à mener une réflexion lucide et conduite par Dieu sur notre monde et sur la manière dont on y vit et dont on peut y vivre de manière fidèle à Dieu. Alors que Dieu nous aide et nous éclaire par son esprit pour tirer tout le meilleur de ce passage et de tout ce qu'on vit et entend ce matin et dans nos vies. Amen.